Europe 1, il est 6h.
Le temps de passer la main est arrivé. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie tout à coup de s'attaquer à la suite de cette aventure. C'est avec grand bonheur qu'on leur cède la place.
À 15 jours seulement de la cérémonie, la direction de l'Académie des Césars démissionne collectivement. La crise couvait depuis des semaines.
C'était la bonne nouvelle hier, une très nette baisse du taux de chômage. L'ambition du gouvernement maintenue 7% en 2022. Écoutez, c'est déjà le cas en Vendée.
Il n'est pas rare que des recruteurs nous disent « J'ai reçu telle personne » et elle a commencé par me dire « Pourquoi je viendrai travailler chez vous ? À vous de me convaincre. »
Une nouvelle tempête va menacer la France ce week-end, baptisée Dennis. Elle doit s'abattre sur la moitié nord. Nous appellerons un climatologue pour savoir si tout cela est bien normal.
Enfin, la liberté pour 181 confinés de Carrie Leroy à cause du virus chinois. Ils sortent ce matin après 14 jours de quarantaine. Pas si pénible finalement.
Je pense qu'on leur a organisé leur vie quotidienne pendant ces 14 jours de façon à ce que ça se passe pour le mieux. Et ils en sont reconnaissants.
Et puis nous vous raconterons l'histoire d'un homme qui rêvait d'être gendarme. Il avait toute la panoplie, uniforme gyrophare, mais il a été arrêté par de vrais gendarmes.
Europe 1, 6h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
La pression était sans doute trop forte. Hier soir, la direction de l'Académie des Césars a donc annoncé sa démission. 21 membres au total, dont son président Alain Terzian, les cinéastes Costa Gavras ou Claude Lelouch, tous disent avoir pris la décision à l'unanimité pour retrouver la sérénité.
C'est aussi un soulagement pour la scénariste et réalisatrice Danielle Thompson, jusqu'ici vice-présidente du bureau de l'Académie.
Le temps de passer la main est arrivé. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie tout à coup de s'attaquer à la suite de cette aventure qui est très très belle depuis des années et qu'on a réussi à maintenir vivante et que maintenant c'est peut-être à d'autres de le faire. Donc on a senti que c'était probablement la sensation d'une grande partie du cinéma français. C'est avec grand bonheur qu'on leur cède la place. Donc je pense que c'est très très bien comme ça et je suis tout à fait ravi de la tournure que prennent les événements.
Danielle Thompson qui se dit ravie, jointe par Romain Oquet pour Europe 1, cette démission en bloc face aux accusations d'opacité, d'entre-soi. Elle intervient seulement à 2 semaines de la cérémonie, mais en réalité, Mathieu Charrier, la crise ne date pas d'hier.
La fronde s'est déclarée lors du dîner des révélations le 13 janvier dernier. À chaque prise de parole, un même reproche, le fait que l'Académie ait refusé le choix de 2 jeunes acteurs de désigner Claire Denis ou Virginie Despentes comme marraine. Un nouvel exemple pour les détracteurs de l'équipe Terzian de son fonctionnement autocratique. Beaucoup demandent alors plus de transparence dans la désignation du conseil d'administration, la parité aussi, ou encore, comme aux Oscars, la possibilité de voter pour élire leur président, poste occupé depuis 2003 par le même Alain Terzian, qui fait quelques concessions et annonce lors de la conférence de presse des nommés tout accepté sauf la remise en cause de son poste. Des concessions vite éclipsées par les 12 nominations de Roman Polanski et son film J'accuse. Nouvelle preuve de la déconnexion entre cette académie et les problèmes qui agitent notre société. Mais le coup de grâce arrive lundi dernier à travers une tribune signée par toutes les stars du cinéma français, d'Omar Sy à Agnès Jaoui, en passant par Michel Hazanavicius, Bertrand Tavernier, Jacques Audiard ou Marina Foïs. Ils réclament une réforme en profondeur de l'académie. À 15 jours de la cérémonie et craignant de nombreux débordements, le conseil d'administration, où ne siégeait que 17% de femmes, a donc décidé de se saborder.
Et le ministre de la Culture, Franck Riester, estime que la nouvelle direction de l'Académie des Césars devra représenter le cinéma français dans sa diversité.
De quoi donner le sourire à Emmanuel Macron depuis la Haute-Savoie. Le taux de chômage a très nettement baissé à 8,1% fin 2019. Très bonne nouvelle selon le président, qui préfère malgré tout éviter tout triomphalisme.
Et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, invitée d'Europe 1 hier soir, se projette désormais vers l'avenir. Elle espère un taux de 7% à la fin du quinquennat. Défi déjà relevé dans 24 départements dont la Vendée, qui est même en dessous de l'objectif. Aux Herbiers, un record est battu avec seulement 4,4% de chômeurs. Charles Guyard est allé y faire un tour pour Europe 1.
Est-ce que je suis le directeur d'agence le plus heureux de France ? Sans doute.
À la tête de l'agence Pôle emploi des Herbiers en Vendée, Laurent Soulard fait bien des envieux. Sur un bassin de population de 30 000 habitants, moins de 5% pointe au chômage. Quant au dernier plan social, il remonte, lui, à 18 mois. Ici, les rapports de force sont inversés à tel point que le candidat est roi.
Il n'est pas rare que des recruteurs nous disent « J'ai reçu telle personne » et elle a commencé par me dire « Pourquoi je viendrai travailler chez vous ?» À vous de me
convaincre.
Oui, car aux Herbiers, un salarié a l'embarras du choix avec 1200 entreprises, de l'industrie à l'agroalimentaire en passant par le tourisme. Une vitalité qui s'explique par plusieurs facteurs. Une géographie favorable, mais aussi une véritable assistance économique. Quand un patron est en difficulté, c'est un autre qui lui vient en aide. Véronique Besse, la maire des Herbiers.
Dans le Bocage, plus qu'ailleurs, on a cet état d'esprit, peut-être un petit peu rebelle. On n'attend rien de Paris, c'est-à-dire qu'on se débrouille nous-mêmes. Il y a aussi une grande solidarité entre chefs d'entreprise. Il n'y a pas de conflits sociaux chez nous.
Conséquence de ce quasi-plein emploi, la mairie doit se plier en quatre pour attirer de nouveaux salariés jusqu'à faciliter leur installation en ville. Les Herbiers, Charles Guyard pour Europe 1.
Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, 2019 a été une excellente année pour le recrutement des cadres. Plus de 280 000 embauches.
Et cette année s'annonce tout aussi bonne avec près de 300 000 créations de postes prévues, Maud Descamps.
Trois secteurs vont particulièrement recruter des cadres cette année. L'informatique avec 60 000 recrutements prévus, l'ingénierie et la recherche-développement, là ce sont 41 000 postes qui seront à pourvoir. Et enfin, les activités juridiques, comptables et de conseil qui auront besoin de 30 000 cadres supplémentaires. Une demande à laquelle il n'est pas toujours évident de faire face, comme l'explique Catherine Baldassar du syndicat des professions de l'ingénierie.
Effectivement, il y a un enjeu pour nous d'élargir la typologie de nos profils sur la France, l'international. Les arguments qui nous permettent d'aller recruter, c'est la diversité de nos projets. Les JO, le Grand Paris Express, on a de nombreux défis qui nous amènent à être très demandeurs en compétences.
Si l'année 2020 devrait afficher une hausse des recrutements de cadres de 5% par rapport à l'an dernier, il faut néanmoins s'attendre à une stagnation en 2021 et 2022, selon les prévisions de l'APEC. Et enfin, le secteur du commerce sera un peu moins dynamique en 2020, notamment à cause des difficultés rencontrées par le secteur de la grande distribution.
Et sachez-le, à 6h40, je reçois Bertrand Hébert, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres, pour justement détailler ses perspectives 2020. Tous les signaux sont au vert, presque. La question de l'emploi des seniors reste posée, et c'est sur Europe 1 ce matin.
Les salariés de l'hôpital public ont choisi ce jour de Saint-Valentin pour de nouvelles grèves et manifestations. Trois mois après le plan d'urgence du gouvernement, ils sont appelés à manifester leur amour du service public, une rose blanche à la main, mais aussi leur colère face au manque de moyens.
Europe 1, il est 6h07.
Caméras et micros seront présents en nombre ce matin à Carry-le-Rouet, près de Marseille, pour assister à la sortie des 181 premiers rapatriés de la ville chinoise de Wuhan.
Oui, la fin pour eux de 14 jours de confinement dans un centre de vacances où finalement leurs conditions de vie étaient plutôt agréables malgré quelques contraintes. Marc Ziltmann, responsable de la Croix-Rouge, les a accompagnés tout au long de cette expérience.
Je pense qu'on leur a organisé leur vie quotidienne pendant ces 14 jours de façon à ce que ça se passe pour le mieux. C'est important de le préciser que le site de confinement sanitaire n'est pas un centre de détention. Ils étaient libre d'aller et venir comme ils le souhaitaient à l'intérieur du site. Mais manifestement, je pense que quand même, ils sont contents de la façon dont on s'est occupé d'eux.
Vous avez ouvert un livre d'or.
Oui, on a ouvert un livre d'or à la disposition des rapatriés. Ils nous mettent beaucoup de remerciements. On a fait en tout cas tout ce qu'il fallait faire pour eux et ils en sont reconnaissants. Certains rapatriés qui me disaient, mais nous, on imaginait qu'on allait être mis dans un bocal transparent et qu'on serait scruté toute la journée par des infirmières. Et donc, effectivement, ils ont été surpris très agréablement par les conditions matérielles qui leur étaient proposées, tout en leur rappelant quand même en permanence qu'il y avait quand même des protocoles à respecter. Il fallait se discipliner, notamment sur le port des mesures de protection par les masques. Je crois qu'on ne peut pas oublier une telle expérience. C'est complètement inédit.
Des propos recueillis par Nathalie Chevance pour Europe 1. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se rendra à Carry-le-Rouet à la mi-journée. Puis à Bordeaux, le patient de 48 ans qui avait été infecté par le Covid-19 a pu sortir de l'hôpital. Il est guéri. 8 personnes restent donc soignées en France.
Tariq Ramadan est désormais mis en examen pour les viols de 4 femmes.
L'islamologue entendu hier sur le fond du dossier a appris que de nouvelles charges pesait contre lui, l'agression de 2 femmes à Paris en 2015 et 2016. Témoignage qu'Europe 1 vous révélait d'ailleurs dès l'été dernier. L'avocat de Tariq Ramadan, maître Emmanuel Marcini, dénonce un acharnement contre son client.
Ce qui se passe est inquiétant, c'est une véritable dérive. Ce dossier qui n'en était plus un, puisque l'enquête a pu démontrer des mensonges avérés des premières accusatrices, eh bien, il fallait nécessairement le sauver de son naufrage judiciaire. Cette mise en examen n'est qu'une tentative désespérée de faire revivre cette affaire. Il est temps que, à un moment ou un autre, la justice fasse son travail et arrête, en tout cas, de vouloir charger la barque Ramadan coûte que coûte. Cette mise en examen aujourd'hui, je ne peux la qualifier que de grotesque.
Maître Marcigny, avocat de Tariq Ramadan. Drame à Thouars, dans les Deux-Sèvres, une infirmière de 30 ans a été mortellement blessée par un patient interné en psychiatrie. Un jeune homme qui lui a porté plusieurs coups de couteau a été placé en garde à vue. Sachez aussi qu'un appel à témoins est lancé après l'enlèvement d'un bébé de 2 semaines, grand prématuré, par sa propre mère. La petite fille était hospitalisée à Paris. Elle est en grand danger si elle n'est pas prise en charge le plus vite possible.
On vous en parlait dès hier matin. Il y a du mariage dans l'air entre Alstom et Bombardier.
Ah oui, les deux groupes sont sur le point d'aboutir à un accord. Alstom rachèterait les activités ferroviaires de son concurrent canadien en difficulté, qui pourrait ainsi éponger ses 7 milliards de dettes. L'accord serait une question de jours. Près de Valenciennes, où sont installées les activités ferroviaires de Bombardier, on voit plutôt ce rapprochement d'un bon œil, comme l'a constaté Maximilien Carlier.
C'est un peu comme si un vieux couple se mariait. D'un côté Bombardier à Crépin, d'immenses hangars en briques rouges, à l'intérieur on fabrique des trains et des métros. À 15 km de là, Alstom, petite forêt, également dans le ferroviaire, deux sites quasi similaires, créés il y a plusieurs années, et parfois comme dans tout couple, il y a des hauts et des bas, comme l'explique Jean-François Renard, délégué syndical CFDT.
Nous sommes à la fois concurrents sur certains marchés, partenaires sur d'autres, avec des fois des périodes, on s'entend pas, on s'aime, on se déteste. Le rapprochement des deux sites ne ferait que recréer des liens qui ont toujours existé.
Fusion ou rachat, Pascal l'huissier de la CFDT compare déjà ce bassin du nord de la France avec l'industrie aéronautique dans la ville rose.
Le Toulouse du ferroviaire, il est ici dans le Valenciennois. Nous, ce qu'on souhaite, c'est obtenir des marchés à l'export, ce qui nous manque un peu actuellement.
Sauf que ce rapprochement possible suscite des interrogations. Ingrid Bacar, déléguée syndicale Force Ouvrière.
C'est des êtres humains qui sont là, pour certains, depuis 30 ans dans la société, sous le nom Bombardier. Demain, fusion ou rachat avec Alstom, bon, bah, c'était le concurrent. Donc psychologiquement, c'est quand même assez compliqué à appréhender. Voilà.
Et l'objectif, s'il y a cette fusion, ça serait de concurrencer, de résister aux entreprises étrangères. Valenciennes, Maximilien Carlier, Europe 1.
Il est 6h11.
Une troisième tempête en moins d'une semaine. Après Kira et Inès, voilà maintenant la tempête Dennis qui se profile à l'horizon.
Elle est attendue sur le nord-ouest de la France ce week-end et devrait toucher la moitié nord de la France, du Finistère au Pas-de-Calais, avec des rafales à plus de 100 km/h.
Bonjour Robert Votard.
Bonjour.
Merci d'être l'invité du journal de 6h sur Europe 1. Vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est une impression ou est-ce qu'il y a vraiment une multiplication de ces incidents climatiques en ce moment ?
Alors oui, ça dépend bien sûr du type d'incident. En ce qui concerne les tempêtes, on est face à une série de tempêtes d'hiver relativement classique, hein. C'est pas tous les hivers comme ça qu'on a des séries, mais on a eu par exemple en 2018 au mois de janvier des séries de plusieurs tempêtes comme ça. Bien sûr, sur les autres types de phénomènes, il y a un rôle du changement climatique qui multiplie par exemple des vagues de chaleur. Ou les phénomènes de pluie extrême.
Hein. Oui, c'est vrai qu'on a un hiver particulièrement doux, là.
Oui, alors là, on est dans des températures qui sont extrêmement douces pour les conditions météorologiques qu'on a, pour la circulation des vents. Hein, et elles sont plus douces que ce qu'elles auraient dû être s'il n'y avait pas eu de changement climatique.
Et on a appris hier que l'Antarctique avait enregistré une température record, plus de 20 degrés. Est-ce que ça aussi, oui, c'est l'effet du réchauffement climatique ?
Alors, sur une température ponctuelle, il est difficile de le dire sans faire une analyse complète. Hein. En général, ça prend quelques semaines, voire plus, de pouvoir répondre à cette question. Mais on avait déjà battu un record il y a quelques jours avec 18 degrés. Là, on est encore dans un nouveau record à la suite de ce premier. On peut soupçonner tout à fait le rôle du changement climatique dans ce type de phénomène.
Merci Robert Votard, climatologue. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Certains auraient rêvé d'être artiste, lui rêvait plutôt d'être gendarme. Dans la Nièvre, un homme d'une cinquantaine d'années qui sera jugé aujourd'hui pour usurpation de qualité.
Oui, en clair, ça faisait plusieurs mois qu'il se faisait passer pour un gendarme et il a été démasqué par son excès de zèle, Salomé Legrand.
Il s'était acheté toute la panoplie sur internet, jusqu'aux décorations et aux galons d'officier. Il avait la tenue de service classique, celle d'intervention, celle de combat, celle de cérémonie. mais aussi le bâton de défense, le deuton et le gyrophare. Le quinquagénaire portait l'uniforme depuis des mois, il l'exhibait sur les réseaux sociaux et le revendiquait auprès de potentiels employeurs dans le civil. Même ses voisins étaient convaincus qu'il était gendarme. Contrôlé avec son gyrophare en marche, l'usurpateur avait brandi sa profession auprès de policiers qui ont quand même voulu vérifier. Le retour négatif a déclenché l'ouverture d'une enquête, puis son interpellation par les gendarmes, les vrais. D'après le procureur, l'homme vouait un culte à la gendarmerie depuis son service militaire sans réussir à l'intégrer. Il a même vécu sa garde à vue comme un séjour en gendarmerie dont il est sorti ravi. Il encourt jusqu'à 3 ans de prison.
Voilà, il est sorti ravi de sa garde à vue, c'est quand même assez rare. Un mot de foot en quart de finale de la Coupe de France. Facile victoire du PSG contre Dijon 6-1. Lyon élimine Marseille 1-0. Dernier. Ah bah non, je suis en train de vous dire ce qui s'est passé hier, ça. Pas du tout là.
Tout va bien.
Non, pas du tout.
Les Stéphanois qui ont éliminé.
On a maintenant le programme des demi-finales, puisque ça sera Lyon-PSG et Saint-Etienne-Rennes. Les Stéphanois ont éliminé les amateurs d'Épinal hier soir, demain.
Effectivement, demain. Tout va bien, Hélène. Tout va bien se passer. Tiens, j'ai une question à vous poser, Hélène Omblin. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Ouais. Est-ce que vous croyez au coup de foudre ?
Oh ben oui, évidemment, bien sûr.
Ouais, très bien, très bien. Est-ce que vous seriez prête à vous marier comme ça au premier regard ? Vous avez reconnu l'émission d'M6, évidemment. Et mon invité inattendu pour parler de la Saint-Valentin. J'adore cette idée qui nous a été proposée dans la rédaction. On va appeler le maire qui marie les candidats de marier au premier regard dans un instant. Il s'appelle Yves Vidal. Il sera en direct sur Europe 1. À tout de suite.